Tout à l'heure, quand je suis arrivé, Richard est venu me voir, il m'a dit « Sur quel texte tu vas prêcher aujourd'hui ?» Et je lui ai dit « Écoute, je vais prendre le texte du jour. » Il a souri parce que c'est un des textes qui m'habite le plus et je pense que j'ai déjà prêché 3 ou 4 fois dessus dans l'église depuis 10 ou 15 ans. Et c'est un texte qui rejoint des thèmes qui m'interpellent toujours le plus. Et il y a 2 textes, alors je ne voudrais pas les lire parce que ce serait un peu trop long vu le temps déjà qui est passé. Le premier texte, vous le connaissez bien, c'est une magnifique parabole dans les évangiles de Matthieu, c'est la parabole des talents. Matthieu 25, verset 14 à 30, la parabole des talents, vous savez, je la résume rapidement, vous connaissez ce maître qui s'en va, qui donne à chacun de ses serviteurs, en fin de compte, un talent. Et vous savez qu'à l'époque, les talents, ça représentait une somme absolument conséquente. Et puis, il revient, à un moment où on ne l'attendait pas, et il y a 3 attitudes. Il y a 2 serviteurs qui ont fait fructifier la somme, le talent qu'ils avaient, et un autre qui l'a caché. Et le Seigneur nous montre que, à ceux qui ont fait fructifier le talent, il donne, il accueille, ils peuvent rentrer dans la joie de leur maître. Et à celui qui n'a pas fait fructifier son talent parce qu'il a eu comme peur de son maître, en fin de compte, il lui retire même ce qu'il a. Et le texte qui est mis en parallèle, c'est dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, un texte que j'ai souligné dans ma Bible tellement je le médite souvent, ou en tout cas il m'interpelle souvent. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme, et ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et tout à l'heure, dans ce que disait Pierre, j'entendais aussi, parce qu'on parlait beaucoup finalement de ce que disait Paul, dans les Romains, il dit exactement la même chose. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Alors, frères et sœurs, vous avez bien compris que ces textes nous renvoient à ce qui est sans doute, je dirais, essentiel dans notre foi, c'est de discerner les temps pour être trouvés lorsque le Seigneur Jésus viendra nous chercher, tel qu'il veut que nous soyons, et que nous puissions entendre « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Ce qui me frappe, c'est que Paul nous dit ça il y a 2000 ans. C'est toujours d'actualité. Toujours. C'est l'actualité de chaque génération de chrétiens. Pourquoi ? Alors, quand je travaillais là-dessus, juste avant, hier, donc la veille, c'est-à-dire hier, Jocelyne me montre un site internet d'une communauté que je connais bien. Et sur ce site avait été remis un enseignement d'un pasteur qui a beaucoup compté dans ma vie, je ne l'ai pas connu. Mais ce pasteur a été, je dirais, un de ceux qui a fondé les enseignements que mon père a reçus et que l'église qui m'a fait grandir a reçus. Il s'appelle Louis Dallière, il est décédé en 57. Et ce pasteur est un peu étonnant parce que c'est un pasteur donc réformé qui a refusé, alors qu'il était très très brillant, d'être enseignant en faculté de théologie, qui a préféré se préserver dans une vie de petite paroisse près de Valence toute sa vie, mais qui a fondé une communauté. On peut faire des retraites pour être enseigné et pour prier ensemble. Et depuis 30 ans, je participe à la vie de cette communauté tous les ans. On pourrait dire que j'ai retrouvé en lisant cet enseignement, en fin de compte, beaucoup de choses que j'avais déjà reçues et qui me montrent quand même que forcément, à 55 ans, je suis le fruit de tout ce qui m'a été transmis, de tout ce qui m'a été donné. Et j'étais interpellé parce que justement, il y a 15 pages. Alors vous voyez, je ne vais pas vous les dire aujourd'hui, ça paraît invraisemblable, mais simplement ça m'a aidé à structurer ce que je voudrais vous partager. En quel temps sommes-nous ? Pour ce pasteur, comme pour beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la préparation du retour de Jésus. Comme tous les premiers chrétiens, qui sont nos pères, nos frères aînés. Nous sommes dans la génération de ceux qui verront le retour de Jésus. Vous allez dire, ben, eux, ils ne l'ont pas vu. Seul le Seigneur connaît les temps et les moments. Mais ils ont vécu conformément à cette certitude. Et cela a orienté toute leur vie, tout leur témoignage, toute leur vie d'homme et de femme dans la société et toute leur vie d'église. Et quand vous lisez Paul, c'est le témoignage qu'il nous a laissé. Alors, Paul n'arrête pas de dire, mais vous savez en quel temps nous sommes pour fonder ces exhortations. Autrement dit, il s'adresse à des frères et des sœurs qui savent. Parce que quand je lis Paul, il n'explique pas dans quel temps nous sommes directement. Ils le savent. C'était donc évident pour eux. Pourquoi c'était évident? Ils avaient en face d'eux les hommes qui avaient connu Jésus, qui l'avaient vu ressusciter et qui avaient entendu, vous vous souvenez, dans Acte 1, que disent les anges à ceux qui sont là? Il reviendra, comme vous l'avez vu, partir. Et cette génération des premiers chrétiens avait face à eux, notamment par Paul, mais aussi par Jean. Vous savez que Jean a vécu très longtemps, l'apôtre Jean. Ils avaient les témoins de ceux qui avaient vu cela. Paul ne l'avait pas vu, mais Jean l'avait vu. Et Paul connaissait Pierre, qui l'avait vu. Autrement dit, ils étaient face, quand ils avaient un prédicateur, ce n'était pas un prédicateur qui prêchait sur la parole qu'il avait entendue de quelqu'un qu'il avait entendu. Ils avaient face à eux des prédicateurs qui avaient vu Jésus, qui avaient vécu avec lui, et qui avaient encore ces paroles qui retentissaient dans leurs oreilles. Puis ils étaient les enfants de la première Pentecôte. 3000 convertis d'un coup. Pierre et Corneille, la Samarie, la Judée, l'expansion incroyable dans tout l'Empire romain. Témoins de cela, au concret. Et puis aussi témoins des persécutions les plus sanglantes qui déjà ensanglantaient l'Église. Fort de tout cela, ils savaient en quel temps ils étaient. Ils étaient dans le temps de l'attente, de l'accomplissement de la dernière promesse. Parce que la première promesse était déjà accomplie. Christ est mort sur la croix pour nous sauver, conformément aux Écritures. Vous savez, j'ai enseigné il n'y a pas longtemps, j'ai prêché il n'y a pas longtemps sur l'espérance. Les premiers chrétiens étaient une communauté de l'espérance. Sommes-nous encore dans ce monde une communauté de l'espérance? Quand j'étais petit, je vous le dis souvent parce que vous savez, je pense que chacun d'entre nous pourrait dire, depuis qu'il est petit, quelle phrase, quel verset biblique ou quelle histoire biblique l'a vraiment marqué. Moi, je dis souvent que les premiers récits bibliques qui m'ont marqué, c'était Daniel dans la fosse aux lions. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si vous êtes comme ça quand j'étais petit. David et Goliath, évidemment. Mais ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était un petit slogan qui était écrit sur le fronton de l'église de mes parents, Jésus-Christ, seul espoir du monde. Jésus-Christ, seul espoir du monde. Nous devons être et nous devons rester et demeurer une communauté de l'espérance. Alors pour être une communauté de l'espérance, il faut d'abord connaître cette espérance et la vivre, mais il faut aussi savoir en quel temps nous sommes, nous dit l'apôtre Paul. Alors Louis d'Allière, il dit simplement, si vous regardez la Bible, on peut dire qu'il y a trois temps. Trois temps dans le plan de Dieu qui nous aident à nous situer, pour comprendre dans quel temps nous sommes. Il dit, la première alliance, l'alliance avec le peuple juif, au travers d'Abraham, avec la circoncision, avec les lois mosaïques, c'est le temps de la révélation du Père, qui prépare le temps de la révélation du Fils. Et le temps de la révélation du Fils commence avec l'ange Gabriel qui visite Marie, Marie qui dit oui, la naissance de Jésus, la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et puis il dit, arrive alors le troisième temps, qui est le temps de l'Esprit-Saint. Parce que Jésus nous dit, je pars, mais je vous laisse un consolateur. Ne partez pas sans lui tant que vous ne l'avez pas reçu. Restez à Jérusalem. Il fera de vous mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, pour ce pasteur, je pense qu'il n'est pas le seul à penser ça, nous sommes dans les temps du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui nous éclaire pour faire de nous une communauté de l'espérance, certains que la promesse est pour nous et qu'elle se réalisera. Alors, à partir de là, la question est la suivante. Si nous sommes certains, j'espère que vous l'êtes, j'espère que nous le sommes, que Jésus tient ses promesses, en êtes-vous certains? Parce que là, je suis d'accord avec Pierre, ce n'est pas une opinion. Avez-vous la foi que Jésus tient parole? Il a dit, je viens bientôt. Et voyez, Jésus n'a de cesse. Combien d'enseignements il a donné sur son retour ou sur la venue du jour de Dieu? Il n'a pas cessé. Lisez le nombre de paraboles qui ont trait à ça. C'est impressionnant quand même. Les paraboles des noces, les paraboles des talents, les paraboles de l'intendant, il y en a plein. En fin de compte, nous avons dans la Bible, nous avons dans les paroles de Jésus notamment, on va voir aussi dans l'évangile de Jean et dans les paroles de Paul, de quoi demeurait une communauté de l'espérance. D'où la question, Paul n'arrête pas de dire, puisque vous savez en quel temps vous êtes, voilà comment vous devez vous comporter. Autrement dit, la manière d'être chrétien dépend de l'espérance qui nous anime. La manière d'être chrétien dépend de la certitude que nous avons dans l'accomplissement de la promesse de Jésus, qu'il vient bientôt. Parce que ces chrétiens dont je vous parle, qui sont nos frères aînés dans la foi, ils savaient que Jésus était mort et ressuscité. Beaucoup l'avaient vu ressuscité. Donc maintenant, ils attendaient avec certitude son retour. Et c'est ça qui fondait leur vie, qui fondait leur manière d'être présent dans le monde. Et je pense que ce n'est pas négligeable de dire que nous sommes exactement comme eux. Et comme je le partageais aussi avec un autre frère qui me disait, l'avantage qu'on a sur eux, c'est comme il y a 2000 ans qui sont passés, nous sommes encore plus proches du retour de Jésus que... On devrait être donc encore d'autant plus certain de la réalisation de la promesse. Le drame de l'Église de Jésus-Christ au cours des âges, c'est qu'elle s'est installée sur terre et qu'elle a perdu de vue la réalisation de la promesse. Et quand elle s'installe sur terre, elle devient un pouvoir, devient temporelle, elle devient charnelle. Elle n'est plus spirituelle. Elle n'est plus dans sa vocation, qui est une vocation céleste. Alors, au travers de cela, quel comportement adopter pour que notre vie personnelle et communautaire soit accordée à l'appel que nous avons reçu, être la communauté de l'espérance qui témoigne dans ce monde, que la seule réalité qui tienne, qui en donne la justification, qui en donne le but et le sens, c'est que Jésus vient et que le règne de Dieu s'établira visiblement. Il fera toutes choses nouvelles. Alors, pour nous accrocher à cela, pour comprendre quel comportement adopter, ce pasteur nous propose de travailler sur trois personne, trois enseignants, le premier Jésus, qui nous a laissé beaucoup de paroles dans l'Évangile. Le second, l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas un hasard que ce soit ainsi qu'il soit appelé, le disciple que Jésus aimait. Et enfin, l'apôtre Paul. Et s'il y avait trois mots à retenir pour nous exhorter à être cette communauté de l'espérance, le premier mot que Jésus n'arrête pas de dire dans ces enseignements, c'est la vigilance. La vigilance. Le second mot qui transpire dans l'évangile de Jean, c'est l'unité dans l'amour, l'unité par l'amour. Et le mot qui transpire dans les actes de Paul, dans les écrits de Paul, c'est le combat. Être vigilant, vivre l'unité dans l'amour et vivre le bon combat. Alors, je sors ma montre. Parce que, franchement, il y a de quoi développer, plus qu'une exhortation, des enseignements, vous voyez, pour nous édifier, pour nous encourager. Et ce qui est magnifique de voir, c'est que Le premier qui nous encourage, c'est Jésus lui-même, par ses paroles. L'appel à la vigilance. Alors, toutes les paraboles de Jésus, moi j'aime particulièrement la parabole des 10 vierges. Je pense que vous la connaissez aussi. C'est une parabole sur la vigilance, vous êtes bien d'accord. Sur le thème des talents, c'est aussi une parabole sur la vigilance. Vous ne savez pas quand le maître va venir. Alors travaillez. Ne cessez pas d'être présent au monde. Faites fructifier vos talents. En fin de compte, Jésus nous dit clairement que le fait d'être certain qu'il va venir ne nous dispense pas d'être actifs dans le monde. Mais d'y être actif au nom de qui et au nom de quoi? D'y faire fructifier le talent qu'il nous laisse pour faire grandir son œuvre, pour faire grandir le témoignage de ce qu'il est vraiment. Je pense que, finalement, Jésus nous encourage, durant notre vie terrestre, temporelle, charnelle, quand je vous vois, frères et sœurs, je sais que nous sommes encore dans un corps de chair, nous n'avons pas encore revêtu le corps de ressuscité. Donc Jésus n'est pas revenu. Demain, je peux mourir. Dans le royaume de Dieu, la mort ne sera plus. Jésus n'est pas encore revenu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes dans le temps de l'attente. Mais une attente qui ne doit pas nous retirer du monde, mais nous rendre présents dans le monde pour en témoigner. Et en fin de compte, pour moi, le verset qui m'aide le plus, je me suis dit, comment se fait-il que sur les trois intendants, deux font fructifier et un ne fait pas fructifier? Je ne vais pas relire la parabole, vous la connaissez. Je pense, le dernier dit, « Je sais que tu es un maître sévère. » Quelle connaissance il a de Jésus? Jésus est comme ça? Ce qui permet aux deux premiers d'être des intendants fidèles qui font fructifier les talents, c'est qu'ils connaissent Jésus tel qu'il est vraiment. Mon frère, ma sœur, connais-tu Jésus par ce qu'on a dit de lui ou connais-tu Jésus personnellement par la relation que tu as avec lui? Qu'est-ce que tu cultives dans ta vie? Étienne, qu'est-ce que tu cultives dans ta vie? Une relation religieuse à une foi? Une relation culturelle à une église? Ou au quotidien, une relation intime et personnelle avec Jésus vivant? Sans cela, on n'est pas une communauté de l'espérance, parce qu'elle n'est pas nourrie par la relation avec Jésus. Et on tombe dans la religiosité, dans la culture religieuse, dans une identité qui devient confessionnelle, mais qui n'est plus une identité dans la relation avec Jésus-Christ vivant. Et quand l'Église, nos Églises vivent cela, elles s'isolent les unes des autres, elles se rejettent les unes des autres, et on arrive à une identité qui n'est pas définie par notre relation avec le Sauveur, mais par ce que nous disons sur le Sauveur, ce qui change tout. Et franchement, ce que nous disons sur le Sauveur, le monde s'en fout. Excusez-moi l'expression. Mais ce que nous vivons avec lui, si ça change nos vies, le monde le verra. Et ça leur donnera de l'espérance. Jésus est vivant! Ce n'est pas une idée. S'il est vivant, je peux être en relation avec lui aujourd'hui et vivre de lui et vivre avec lui. Il le dit lui-même, voici tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu, merci Marc, fin 28, etc. Autrement dit, les deux premiers pour moi qui ont fait fructifier les talents savaient par une relation intime qui était leur maître parce qu'ils aimaient leur maître. Mon frère, ma sœur, Étienne, je me parle à moi-même, hein. Aimes-tu Jésus? Chaque matin, je me lève et dis, Seigneur, je voudrais t'aimer plus, te connaître plus, révèle-toi encore à moi. Réveille l'amour pour moi, pour toi en moi, et révèle l'amour que tu as pour moi. Je ne peux pas vivre sans cela. En fin de compte, si je vis cette communion avec Jésus, je vais rester vigilant. Parce que je ne pourrais pas faire autrement que poser tous les actes de ma vie dans mon travail, dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, qu'en référence à celui qui m'en donne la grâce de les vivre. Je pense que c'est cela la crainte de Dieu dont parlent les proverbes. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la connaissance intime de qui il est vraiment. Je me réjouis quand, dans notre communauté, on grandit dans cette connaissance de Jésus. Et moi, je grandis ici par le témoignage des frères et des sœurs. Je grandis ici par la prière qu'on a ensemble. Je grandis ici par l'exhortation. Mais il n'y a pas ici que je grandis. Je grandis dans mon quotidien, jour après jour, si je cultive ma relation avec Jésus. Autrement dit, Jésus nous appelle à la vigilance, et la première des vigilances, c'est de le connaître, lui, tel qu'il est, vraiment. Et alors nous serons comme ces intendants fidèles, qui ne fuiront pas le monde, mais qui demeureront pour témoigner de lui, dans quelque situation que nous vivions. Alors je me rendais compte que ça c'est pour les intendants, dans la parabole des vierges, vous savez ce qui se passe? Jésus il est présenté comme l'époux. Et évidemment, Jésus se présente soit comme un voleur qui va venir en surprenant tout le monde, soit comme l'époux qui vient pour le jour du mariage. Et je me disais, j'espère Seigneur, c'est mon espérance humaine mais spirituelle, que le jour où tu viendras, si tu frappes à ma porte, j'ouvre, je ne serai pas surpris et je dirai enfin maître, chéri, tu es là. Ça fait si longtemps que je t'attends. J'aimerais entendre, c'est pas une boutade, mais ça a du sens pour moi. Si c'est mon petit garçon Pirelli qui ouvre la porte, dis papa, papa, c'est celui que tu m'as dit d'attendre. Il est là. De quel Jésus je parle à mes enfants? De quel Jésus je parle à mes enfants? Soyons vigilants. Apprenons à connaître Jésus. Et nous serons alors vraiment témoins de lui dans ce monde. Avec Jean. Jean, le disciple bien-aimé. La manière d'être une communauté de l'espérance, c'est de vivre l'unité dans l'amour. Ce qui me frappe dans Jean, ce qui est dit de lui, vous vous souvenez, dans le repas, dernier repas, il pose sa tête sur où? Sur le cœur de Jésus. Autrement dit, par ce geste-là, on comprend que Jean avait une vraie intimité avec Jésus, peut-être plus que celle des autres. Il avait l'intimité du cœur. Vous connaissez l'évangile de Jean, il est très différent des autres. On sent que Jean donne dans son enseignement, quelque chose qu'il a reçu dans l'intimité avec Jésus. Notamment, toute cette magnifique exhortation de Jésus, 14, 15, 16, qu'on appelle la prière sacerdotale. Et là, qu'est-ce que dit Jésus? Jean nous livre quelque chose qui est dans le cœur de son maître. Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean a compris que pour être une communauté de l'espérance dans cette terre, qui témoigne de qui est Jésus et qui rend crédible qui est Jésus, qui donc rend crédible ce qu'il a fait et ce qu'il fera, il faut que nous soyons un. En fin de compte, Jean a très bien compris que le corps du Christ que nous sommes ne peut pas être fragmenté. Jésus n'est pas polygame. Jésus épousera une seule épouse. Tout à l'heure, dans ce que disait Pierre, j'entendais une des clés concrètes qui nous permet de rester dans l'unité et dans l'amour entre nous et avec ceux que nous accueillons. Vous savez que Jean a écrit l'Évangile, mais il a aussi écrit des épîtres. Et Jean dit dans une épître, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Autrement dit, si nous vivons, nous recherchons cette unité dans l'amour, dans l'amour que Jésus nous donne et dans l'amour que nous voulons vivre avec Jésus. Si nous voyons dans le frère et la sœur quelqu'un qui aime Jésus aussi passionnément que nous, qui recherche à aimer Jésus aussi passionnément que nous, alors nous allons être une communauté de l'espérance qui témoigne de qui est Jésus. Vous savez qu'un des plus grands obstacles, alors est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Peut-être moins. Il y a quelques années, un des plus grands obstacles que je rencontrais quand je faisais l'évangélisation dans les rues avec différentes communautés, le plus grand obstacle que je rencontrais indirectement, c'était que beaucoup de gens me disaient, de toute façon les chrétiens, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Donc vous n'êtes pas crédible. Et quand je leur disais, nous sommes des frères de différentes communautés ensemble, là, ils osaient nous écouter. Ça redonnait de la crédibilité à notre message. L'unité dans l'amour fait de nous une communauté de l'espérance. Au cours des 2000 ans de christianisme, l'histoire de l'Église a bien démontré le contraire. Mais voilà, l'unité des membres du corps du Christ est donc à la fois la condition du témoignage rendu à Jésus-Christ, mais en est aussi la conséquence. Pour que Jésus soit rendu crédible, il faut qu'on soit un, mais si on recherche Jésus, on sera un. Où en sommes-nous de notre vision du corps du Christ? Dans cette dynamique-là. Est-ce que je peux accueillir en vérité un frère et une sœur qui n'a pas du tout la même histoire que moi, mais qui a la même passion pour Jésus? Aujourd'hui, je vous livre où j'en suis. Je ne regarde plus à la confession, c'est terminé pour moi. Je regarde à la passion pour Jésus. Si je vois un frère qui est passionné de Jésus comme moi, c'est mon frère. Parce qu'on a le même Seigneur, on partage la même passion et le même désir. J'en suis pas venu là au début de ma foi, de ma conversion. J'en suis venu là aujourd'hui à 55 ans. Mon identité, elle est en Christ, dans ma relation avec lui. Elle n'est pas dans ma confession et dans mon Église, même si c'est important. Mon identité, elle est en Christ. Vous tous qui avez revêtu le Christ, revêtir le Christ. Le monde a besoin de ce témoignage-là. Mes frères en Irak qui souffrent, ce sont mes frères, même s'ils ne sont pas évangéliques, protestants ou catholiques. Ils souffrent parce qu'ils aiment le Christ. Et enfin, avec Paul, je vais terminer par là, avec Jean, on pourrait développer, je vous donne un condensé, un digest, je suis désolé. Et avec Paul, on pourrait encore plus développer aussi. Paul, il nous appelle au bon combat, dans la résistance à l'antéchrist. Dans la résistance à l'antéchrist. Pour Paul, il est clair que le monde n'ira pas de progrès en progrès. Le monde ira de mal en pis. Le monde n'est pas promis à un progrès continuel qui fera se réaliser un royaume de Dieu par les efforts humains. La Bible est claire là-dessus. Dans les temps de la fin, l'homme appellera mal ce qui est bien. Il y aura un renversement complet des valeurs. Il y aura un montée de ce que Paul appelle l'apostasie. Quand Paul écrit cela, il est en train de le vivre. C'est étonnant, j'ai l'impression de le vivre aussi. Notamment en Occident. Je ne sais pas si vous avez la même vision que moi du monde dans lequel nous sommes. Et du coup, Paul devient extrêmement poignant, parce que ça me rejoint. En fin de compte, pour Paul, je vous l'ai dit, le monde n'ira pas de progrès en progrès, mais de mal en pis. Notamment parce que nous nous approchons du temps où Jésus revient, et notamment parce que déjà, Jésus a vaincu. En fin de compte, ce que dit Paul, en gros, c'est qu'il dit que si nous sommes vraiment dans les temps de la fin, et ils le savent, les chrétiens, eh bien, le monde va être de plus en plus dur parce que l'adversaire sait qu'il lui reste peu de temps. Il a déjà été vaincu. Et du coup, alors, Paul n'a de cesse de dire, vous savez en quel temps nous sommes, vous le voyez, les empereurs romains, ils vous persécutent. Il y a des frères et des sœurs qui sont mis en prison. Il y a des frères et des sœurs qui sont tués. Et regardez comment vit le monde autour de nous. Il est totalement païen. Les valeurs bibliques ne sont pas vécues. Tout est renversé. Il faut donc que vous résistiez et que vous persévériez dans le bon combat de la foi. Parce que, et là, il y a une phrase énigmatique, je pense que Paul la connaissait. Josie m'en parle souvent, elle me dit, c'est une des phrases qu'elle trouve la plus terrible. C'est Jésus qui dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre. C'est Jésus qui dit ça. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre. Autrement dit, les temps que vont vivre les chrétiens ne vont pas être des temps faciles. À un point tel que même les élus pourront être ébranlés, dit Paul. Alors je dis ça pour les jeunes. Moi j'ai entendu ça, j'avais 18 ans. J'en ai 55, je peux vous témoigner que Dieu est fidèle. Et qu'on n'a pas de crainte à avoir. Mais si Jésus se pose la question, c'est pour nous avertir. Alors, si on écoute Maître Paul, comme on a écouté Maître Jean, et qu'on a écouté le super maître Jésus. Que nous dit Paul? Paul nous donne des clés pour rester une communauté vivante de l'espérance dans un monde désespéré où l'antéchrist, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à Jésus-Christ, tout ce qui s'oppose au règne de Dieu, tout ce qui voudrait bien que cela n'advienne pas, soit défait et ne puisse pas nous corrompre. Paul lui dit, ne vous conformez pas au monde présent. Point. Ne vous conformez pas au monde présent. Nous devons avoir une discipline, nous devons avoir une discipline de vie entre nous pour discerner ce que veut dire ne pas se conformer au monde présent. Il rajoute, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Pourquoi j'ai besoin de vous, frères et sœurs? Parce que face à face aux telles situations, je parle souvent avec Pierre, avec Richard, avec d'autres, face à face à telle situation, on s'encourage les uns les autres pour discerner quelle attitude correcte tenir moralement, éthiquement dans nos vies pour rester des témoins de l'espérance. Et aujourd'hui, les défis dans le monde français, ils sont pas mal. Hein. Résister le bon combat dans la certitude que Jésus est avec nous. Vous savez ce que disait, vous l'avez peut-être déjà rappelé, ce pasteur allemand qui est mort, tué par Hitler et qui a résisté à Hitler, il disait « Je tiens debout parce que je suis tenu ». C'est Jésus qui nous tient. C'est Jésus qui nous tient. Alors, Paul, j'aimerais pouvoir dire comme lui, tout à l'heure je vous ai dit que j'aimerais pouvoir dire, quand Jésus reviendra, « Seigneur, enfin tu es là. Seigneur Jésus, mon maître, Seigneur Jésus, mon époux, Seigneur Jésus, et je le dis avec tremblement parce que, est-ce que je sais vraiment ce que ça veut dire, mon chéri, celui que mon cœur aime, le cantique des cantiques, enfin tu es là. Mais j'aimerais pouvoir dire aussi avec l'apôtre Paul, j'ai vécu le bon combat, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, nous sommes avertis par le Christ à rester vigilants. Nous sommes invités par Jean à incarner dans notre monde l'amour tel que Jésus est venu s'incarner dans le monde. La clé que nous donne Jean, c'est l'humilité. Nous ne pourrons pas incarner l'amour sans humilité. Pour Jean, est-ce que dans Jean, il y a le récit de la Sainte Cène complet? Qu'est-ce qu'il y a là? Non pas à la place, mais sur quoi insiste Jean? Lavement des pieds. Et c'est là que Jésus met le comble à son amour. Dans cette humilité, nous témoignons de l'amour et nous vivrons l'unité. Et enfin, par Paul, nous sommes encouragés à persévérer dans la foi en discernant correctement, ensemble, grâce à l'Esprit Saint, puisque nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint, comment nous conformer dans ce monde hostile qui le sera de plus en plus. Alors, moi, je me sens profondément encouragé par cela. Parce que finalement, j'ai un sens vrai à ma vie. Je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je vis. Je sais ce qui m'attend. Et mon espérance, elle est là. Mais aujourd'hui en France, mon espérance, elle n'est pas encore passée à l'épreuve du feu. Je ne suis pas en Irak, je ne suis pas en Syrie. Dieu nous en préserve. Mais s'il le veut, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Alors, frères et sœurs, encourageons-nous les uns les autres. Pour moi, la clé, et je terminerai par ça, la clé, aujourd'hui, c'est de cultiver notre intimité avec Jésus. C'est la clé. Personnelle. Personnelle. C'est la clé. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Je viens bientôt. C'est notre espérance. Moi, franchement, j'aspire à ça. Ce monde, excusez-moi, je termine, ce monde m'écœure. J'en ai marre. J'en ai marre de la souffrance. J'en ai marre de voir le mal. J'en ai marre de ces enfants décapités en Irak devant leurs parents. J'en ai marre de ces 6 millions de morts dans les camps de concentration. J'en ai marre de ces boucheries dans les tranchées qu'on commémore en 14-18. Viens, Seigneur Jésus, et que la figure de ce monde passe. Tu es le seul espoir du monde. Et c'est cela la vérité. Amen.
Merci.